Radio Kapi.
Oh, Kapi. Lievin Bwinga à la présentation. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord les titres. La proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif pour le conflit à l'est de la RDC. Au cœur de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola à Luanda, ces assises font suite à l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août dernier. Détail dans un instant. Et puis cette alerte de la Direction nationale de contrôle de la préparation et de la paie des enseignants à quelques jours de la rentrée scolaire à Beni dans le Nord Kivu. Des milliers d'enfants orphelins sont victimes des massacres perpétrés par les rebelles des ADF. La DINACOPE implore l'intervention du gouvernement et des partenaires œuvrant dans le domaine de l'éducation. Notre invité est le gouverneur de la province du Maniema, Moussa Kabwankoubi Moïse, va nous expliquer sa décision de supprimer plus de 100 barrières au Maniema, ainsi que ses conséquences et pourquoi pas les motivations de cette mesure. D'abord, direction Luanda, où la proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif pour le conflit à l'est de la RDC continue d'être discutée et négociée ce mercredi, rapporte le ministère angolais des Affaires étrangères. Un document présenté par le président João Lourenço en tant que médiateur nommé par l'Union africaine. Cette discussion a débuté hier, mardi 20 août, les ministres des Affaires étrangères de la RDC, du Rwanda et de l'Angola prennent part à cette troisième réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix dans l'est de la République démocratique du Congo. La réunion fait suite à l'accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août, résultant d'un accord entre les parties impliquées dans le conflit, signé le 30 juillet à Luanda et supervisé par le mécanisme de vérification ad hoc. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
La réunion est présidée par les ministres angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, en tant que médiateur, et connaît la participation de la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, et du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Ndungire. Les trois ministres et leurs délégations se sont réunis hier mardi après-midi à Luanda pour analyser la proposition définitive de la paix dans l'est de la RDC. L'Angola, le Rwanda et la RDC déploient des efforts importants et coordonnés pour trouver une solution définitive en matière de sécurité et de paix dans l'est de la RDC. L'Angola, en tant que médiateur, joue un rôle fondamental en facilitant le dialogue politico-diplomatique entre le Rwanda et la RDC visant à stabiliser cette région des Grands Lacs. Lors du 44e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC, le président angolais et médiateur de l'Union africaine avait affirmé que son pays œuvrait à prendre des mesures concrètes en vue de négocier et de signer un accord de paix définitif. Et c'est cet accord qui est discuté et négocié entre les partis ministériels à partir du 20 août à Luanda.
Trois personnes grièvement blessées, d'importants dégâts matériels, bilan d'une altercation entre les conducteurs de mototaxi et des militaires dans la soirée d'hier mardi à Turunga, dans le territoire de Nirangongo, au Nord Kivu. À la base, la mesure du gouverneur de province interdisant la circulation des mototaxis au-delà de 18 heures. Chris Mukand.
Ces personnes, deux blessées aux jambes et la troisième atteinte au niveau de bassin, ont dans un premier temps été reçues dans un dispensaire de la localité Turunga. Elles font partie des curieux qui assistaient à des tiraillements entre les militaires et les conducteurs de mototaxis qui exploitent l'axe Goma-Turunga. Pour des raisons jusque-là non expliquées, les militaires auraient ouvert le feu, faisant des victimes innocentes, telles que l'explique Thierry Gassisiro, rapporteur de la société civile de Nyiragongo.
Des militaires, lors de cette opération de traque des motards, ont malheureusement tiré plusieurs coups de balle, ce qui a créé une panique et une psychose au sein de la population de Turunga. Trois personnes ont été touchées par balle et plusieurs biens de valeur ont été perdus. Cette décision du gouverneur qui interdit les motards à circuler au-delà de 18 heures n'est plus mise en œuvre pour stopper l'insécurité, mais pour rançonner les motards et la paisible population. Il est donc temps qu'ils remettent de l'ordre dans la manière d'exécuter cette décision du gouverneur. Et il serait déjà prudent qu'à partir de 17 manière que les motards commencent à voir comment regagner leur domicile.
La question a été au centre d'une causerie morale à la 34e région militaire ce mercredi matin, dont les retombées seront communiquées, indique le colonel Guillaume Njike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu. Chris Mukande, Radio Kapi, Goma.
Nous restons dans le Nord Kivu pour vous signaler qu'une accalmie s'observe ce mercredi dans le groupement de Mufuni-Shanga, dans le sud du territoire de Masisi. Ce, après des affrontements ayant opposé en début d'après-midi d'hier mardi les rebelles du M23 aux combattants des groupes armés locaux dans les villages de Kabaché et Kachengamutwe. Ces villages sont situés sur les collines surplombant l'agglomération de Bweremana. Selon certaines sources locales, les combattants locaux se seraient affrontés avec une patrouille de rebelles qui tentait de passer vers l'ouest de Chacha. Des crépitements de balles ont été entendus jusque vers 14h heure locale, disent nos sources. Éducation, la Direction nationale des contrôles de la préparation de la paix des enseignants tire la sonnette d'alarme à Beni, toujours dans le Nord Kivu. La DINACOPE s'indigne sur la situation des milliers d'enfants orphelins victimes des massacres perpétrés par les rebelles des ADF à l'approche de la rentrée scolaire. Le chef d'antenne de cette direction dans la région d'Eringeti, Kainama, souligne que ces enfants vulnérables ne savent pas où s'inscrire et leurs tuteurs n'ont pas les moyens nécessaires pour assurer leur scolarité. Il appelle ainsi le gouvernement, les partenaires œuvrant dans le domaine de l'éducation ainsi que les personnes de bonne volonté à intervenir pour soutenir ces orphelins. Bienfait Baraka s'est exprimé au téléphone de Marc Marofimbo.
À l'entrée principale du bâtiment administratif sur le boulevard.
Voilà, je disais que nous passons à l'éducation maintenant. La Direction nationale de contrôle de la préparation de la paie des enseignants tire la sonnette d'alarme à Beni, toujours dans le Nord Kivu. Nous allons suivre Bienfait Baraka qui s'est exprimé au téléphone de Marc Marofimbo. Voilà, nous allons revenir sur cet élément dans nos prochaines éditions. Épidémie de monkeypox à présent. Le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Doudou Fouamba, annonce le déblocage des fonds d'urgence allant de 6 à 10 millions de dollars américains pour soutenir la prise en charge immédiate de l'épidémie. Cette mesure a été annoncée hier mardi à l'issue d'une séance de travail réunissant le ministre de la Santé et le directeur général du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, organe de l'Union africaine, chargé de la surveillance et du contrôle des maladies et des épidémies. Le gouvernement tient à rassurer la population sur les mesures qui sont prises. Le ministère des Finances promet de mettre à la disposition de différentes équipes des ressources qui vont aider à attaquer ce fléau avec l'accompagnement des partenaires. Voilà, un nouveau programme de coopération de 5 ans en vue entre l'UNICEF et la RDC à partir de 2025, annonce faite par le directeur général de cette agence des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre en visite au Kasaï central. C'est dans ce cadre que Gilles Fatinou évalue les interventions de l'UNICEF sur terrain dans certaines zones et échange avec les communautés. Après avoir visité hier mardi les infrastructures scolaires et sanitaires construites à Tchingana, à 40 km de Kananga, il s'est dit satisfait de ce qui est fait pour la communauté par l'UNICEF qui reste engagée à apporter un appui à l'éducation, à la santé et à d'autres besoins sanitaires. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Cette fois-ci, on est en train de renforcer la convergence de nos programmes, mais également le travail avec les autres agences du système des Nations Unies et d'autres partenaires. Tchingana était extraordinaire. On a vu une communauté résiliente. On a vu une communauté qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a accepté de contribuer à la construction d'une maternité, de contribuer à la construction d'une école, de contribuer même à la construction de matériel d'assainissement, d'hygiène, et d'eau. C'est extraordinaire. Évidemment, l'UNICEF a essayé d'orchestrer tout ça. On a eu toutes ces infrastructures qui ont été construites, bien maintenues, et la population était aux anges. L'équipe de l'UNICEF, ils ont bâti une réponse sur la base donc du contexte local, en apportant de l'eau comme il le faut, les soins, l'école, avec ce que la communauté veut. C'est pas extraordinaire, mais c'est contextuel et c'est ça qui est important.
La journée mondiale du moustique a vécu, c'était hier mardi 20 août, une journée choisie pour commémorer la découverte en 1897 par le médecin britannique Ronald Ross du moustique comme vecteur des maladies dont la malaria en RDC, le paludisme est chaque année responsable de plusieurs cas d'hospitalisation et de décès, surtout chez les enfants. Comment se présente la situation de cette maladie dans le pays? Comment la prévenir et aussi lutter efficacement contre son vecteur qui est l'anophèle femelle, donc le moustique, dans un environnement comme Kinshasa? Élément de réponse avec Arcel Kajourou.
Le paludisme est endémique en RDC. Docteur Eric Mokomena, directeur du PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme, parle de l'évolution de la maladie en RDC.
Nous avons terminé 2023 avec 24 000 décès sur le pays, ça veut dire 2 000 décès liés au paludisme par mois. Divisé par les 519 zones de santé, vous allez trouver que c'est au moins 4 décès par zone de santé.
Parmi les moyens de lutte, Docteur Eric Mokomena cite notamment le moustiquaire imprégné d'insecticides et les vaccins pour le plus petit.
L'outil de prévention que nous avons, c'est la moustiquaire imprégnée, mais l'utilisation demeure encore moyenne. Le vaccin est destiné aux enfants de moins de 5 ans. On commence à 6 mois pour que cet enfant puisse lui conférer une immunité solide qui va le protéger tout le long de sa vie.
Qu'est-ce qui explique la prolifération des moustiques dans le milieu et comment lutter contre? Bertin Bouya, environnementaliste.
Les moustiques aiment se développer dans les conditions où il y a un climat tropical humide. Les moustiques se multiplient aussi par la mauvaise gestion des déchets. Mais sur le plan environnemental, le premier angle en attaquant son cycle de vie. Mais l'autre aspect de lutte, c'est celui d'utiliser aussi certaines essences qui peuvent jouer le rôle de repulsif.
Comme le dit le docteur Eric Mokomena, une lutte efficace contre le paludisme doit être multisectorielle.
Qu'est-ce qui se passe au sein de l'administration publique au Kasaï oriental? En tout cas, on observe un véritable engouement depuis les débuts de ce mois d'août au bâtiment administratif de Mbujimayi. Leur présence est justifiée par le respect de la nouvelle réglementation concernant les horaires de service au sein de l'administration publique. Cependant, les conditions de travail laissent à désirer, affirment plusieurs fonctionnaires ainsi que leur chef de division provinciale. Un constat d'Esther Ndalafina.
À l'entrée principale du bâtiment administratif sur le boulevard Mzé Laurent Désiré Kabila, une impressionnante présence de fonctionnaires est remarquable sous deux arbres dans la cour des deux bâtiments qui abritent une quarantaine de divisions. Pourquoi vous êtes debout, monsieur?
Il n'y a pas de bureau où aller travailler, c'est pourquoi nous sommes sous les manguiers. Beaucoup de fois, nous travaillons dans les couloirs.
Dans les couloirs, des tables et des chaises sont placées les unes des autres. Il faut se faufiler pour accéder au bureau. Un fonctionnaire se plaint.
Nous sommes venus travailler de 8h à 16h, avec une pause d'une heure. Mais dans quelles conditions?
Dans une division, les agents sont assis sur des bancs pupitres comme des élèves dans une salle de classe. Ils disent être indignés.
Vraiment, ça ne voit pas avec la chaleur. Et nous restons côte à côte, nous risquons de nous contaminer. Traversons une mauvaise période d'épidémie.
À la division provinciale de la fonction publique des actifs, pas d'espace au bureau du chef, couloir bloqué, Jean de Dieu Boudila ne cache pas sa désolation.
J'ai 12 bureaux. Pour chaque bureau, a au moins 6 âges. Mais regardez, travaille dans des conditions difficiles. Le bâtiment n'a même pas de bonnes fenêtres pour aérer les salles. Pas du courant pour que l'on puisse chercher des ventilateurs afin de bien respirer.
Signalons que tous les fonctionnaires trouvés au bâtiment administratif utilisent 4 vieilles latrines. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans le domaine de la promotion d'accès à l'énergie électrique, la coalition des organisations de la société civile pour la promotion d'accès à l'énergie électrique, CORAP, organise du 20 au 24 août courant le Forum national sur l'évaluation du taux d'accès à l'énergie électrique en RDC dans la salle de conférence de l'INPP à Kinshasa. Ces assises ont pour but d'évaluer les avancées et les faiblesses enregistrées depuis la promulgation de la loi portant libéralisation du secteur de l'énergie électrique en RDC en 2014, souligne Emmanuel Moussouyi, son secrétaire exécutif. Écoutez un extrait de l'entretien qu'il a eu avec Tati Mapoukou.
Un forum qui est réuni près de 300 personnes qui sont venues des provinces et de Kinshasa, ainsi que des représentations des pays étrangers comme le Kenya qui sont venus partager avec nous leurs expériences sur la planification énergétique. On va se rendre compte que nous sommes en 2024. La loi portant secteur de l'électricité a été promulguée en 2014. Donc aujourd'hui, on est à 10 ans de la promulgation de la loi portant secteur de l'électricité. Donc ce forum a pour, entre autres objectifs, d'évaluer la loi. La loi avait pour objectif justement d'améliorer la desserte en énergie, d'améliorer le cadre légal, opérationnel du secteur. Mais aujourd'hui, 10 ans après, on se rend compte qu'on est toujours à 7,14% du taux d'accès à l'électricité.
Actualité internationale.
Le Soudan a été frappé par une épidémie de choléra qui a tué près de 2 douzaines de personnes et en a rendu malade des centaines d'autres ces dernières semaines, ont indiqué les autorités sanitaires. Et puis le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a quitté le Proche-Orient mardi 20 août sans réussir à obtenir un accord de trêve entre Israël et le Hamas, malgré plusieurs jours de négociations intensives. Sa 9e visite dans la région depuis le début de la guerre à Gaza s'est achevée sans résultat concret.
L'invité.
D'autres invités, c'est Moussa Kabwankubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema. Il nous parle de sa décision de supprimer plus de 100 barrières qui existaient au Maniema et les motivations. Moussa Kabwankubi Moïse s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
Quelle a été la grande motivation pour vos autorités provinciales de supprimer plus de 100 barrières dans la province du Maniema?
Les consultations que nous avons menées auprès des forces vives de la population ont fait état des barrières comme l'un des problèmes majeurs de la population de la province. Donc pour la population, il y a les problèmes des routes, il y avait aussi les problèmes des tracasseries au niveau des barrières. C'est comme ça que nous n'avons pas tardé. Nous avons mis une commission qui a travaillé durement pendant plus de 2 semaines et les rapports de cette commission a été présenté devant toutes les forces vives et ensemble, nous avons retenu 60 barrières sur plus de 200. Et lors de l'examen du dossier au niveau du Conseil des ministres, nous sommes arrivés à retenir finalement 58 barrières, sur environ 200.
Le problème, c'est le nombre de barrières ou bien des tracasseries qui se trouveraient au niveau des barrières, aussi avec les agents des différents services commis à ces barrières.
Le problème, c'est le nombre de barrières et le nombre de services. Parce que ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y avait environ 200 barrières. Alors, sur un trajet de 150 ou 200 kilomètres, tu pouvais rencontrer 20 à 30 barrières. Et à chaque barrière, vous aviez environ 17 services. Donc, parmi ces services, vous aviez par exemple le ministère des Transports, vous aviez Saint-Père, vous aviez le tourisme. C'est presque tous les services de l'État qui avaient érigé leur bureau sur des barrières. Donc, pour un simple passager, un simple passant, un paysan, il devait faire face à tous ces services. Et aujourd'hui, le nombre de services a été ramené d'environ 17 à seulement 6. Aujourd'hui, nous avons les services de l'ANR, les renseignements militaires, la police, la DGRMA, la DGM et nous avons les ETD. Et la particularité, c'est que les autres services, donc en dehors de la DGRMA et des ETD, qui ont la vocation de percevoir les taxes sur ces barrières-là, les autres 4 services ne vont s'occuper que de la sécurité. Donc, il n'y a que les services de la DGRMA, qui est la régie provinciale, et les ETD qui vont s'occuper de percevoir.
Monsieur le gouverneur, pensez-vous que ça c'est du nouveau, étant donné que vos prédécesseurs ont fait le même exercice, mais ce qui manque, c'est les suivis. Aujourd'hui, vous prenez cette décision. Est-ce que vous aurez le temps de descendre sur le terrain pour vérifier si ce que vous avez décidé a été observé à la loupe?
Alors, la particularité de cette mesure, c'est que cette fois-ci, nous avons mis en place un comité de suivi. Au niveau provincial, c'est chapeauté par le Conseil provincial de sécurité, qui est présidé par le gouverneur. Et pour votre information, chaque lundi, nous avons une réunion du Conseil provincial de sécurité. Ça veut dire concrètement que chaque lundi, nous ferons le point sur la situation des barrières. Au niveau territorial, les barrières seront suivies par le comité territorial local de sécurité et au niveau local ou des ETD, cela sera suivi au niveau du conseil territorial de sécurité. Et l'autre particularité, c'est que à la fin de chaque trimestre, nous allons nous retrouver avec toutes les forces vives pour évaluer les niveaux de mise en œuvre de cette mesure.
Pensez-vous qu'en supprimant les barrières, cela contribue à l'amélioration du climat des affaires dans la région?
Évidemment, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a des endroits où les mamans, pour aller au champ, elles devraient avoir au moins 10 000 ou 20 000 francs pour aller seulement cueillir peut-être du pondu dans son champ. Il faut avoir 10 000 ou 20 000 francs à payer dans des barrières. Mais aujourd'hui, c'est une question qui appartient au passé. Donc, nous pensons que cette mesure contribue à l'assainissement du climat des affaires. Bien sûr, il y a d'autres mesures qui vont suivre, mais cette mesure, si elle est bien appliquée comme nous le souhaitons, nous pensons qu'elle va contribuer. Alors, si par malheur, nous trouvons une barrière qui est érigée en dehors de ces 58 barrières qui sont fixées, ces gens-là seront arrêtés et nous allons organiser une chambre foraine pour prendre des sanctions exemplaires.
Monsieur le gouverneur Moussa Kabankobi Moïse, je vous remercie.
Merci, Madame Florence.
Voilà, c'est la fin de ce journal et merci de l'avoir suivi.